Session sur la béatitude par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 19 avril 1996, quatrième conférence.
Marche. Ce qui n'est pas toujours commode. Alors j'ai trouvé une solution. C'est que ce soir, si tu restes bien le soir, d'essayer de comprendre. Quelle est la béatitude du Christ ? Vous voyez ? C'est quand même ça qu'on doit regarder. En premier lieu, si on est chrétien. La béatitude du Christ, elle est le modèle de notre béatitude. Si on veut comprendre quelque chose à notre béatitude. Et vous comprenez que c'est pas commode de parler de la béatitude. Hein, parce qu'on n'a qu'un pied dans la béatitude. Et quelquefois, un petit doigt. Et le petit doigt, tout petit. Et tout le reste. Hein. Je dis pas que c'est dans la poisse, mais presque. Pas commode. Puis je n'ai pas l'expérience. C'est un plan philosophique, on est très désarmé par les béatitudes. J'ai aucune expérience. Si j'avais eu une expérience ce matin dans l'oraison de la béatitude, je pourrais vous en parler. Comme vous n'avez pas d'expérience, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Je ne peux pas. Je suis honnête. Je suis comme vous. On est des pèlerins. On voit rien. Il y a beaucoup de brouillard. De temps en temps, il y a un très beau ciel. Alors ça, c'est le ciel de la béatitude. Presque, presque. Puisqu'il y a le ciel et la terre. Alors, je crois que c'est pas mal. Ce soir, de vous parler de la béatitude de Jésus. Puisque ça, c'est une donnée de foi. Et qu'au fond, c'est peut-être cela qu'on doit faire en premier lieu. Vous voyez, Thomas d'Aquin ne fait pas ça. J'avais hésité à vous prendre tout simplement le traité de la béatitude de saint Thomas. On aurait fait un bon cours ce soir. Le soir, on est un peu fatigué, n'est-ce pas? Alors, et Thomas d'Aquin n'est pas commode. Je vous en lirai de temps en temps, simplement pour montrer que c'est pas commode. Parce que c'est bon quand même d'en lire. Il faudrait, si on était des chrétiens un peu intelligents, Thomas d'Aquin serait pour nous un livre de lecture quotidienne. Alors, vous dites, oh oui, ça c'est bon pour les dominicains. Non, c'est bon pour les chrétiens tout court. Thomas d'Aquin écrit sa somme théologique pour les commençants. On est tous des commençants, surtout pour la béatitude. Donc il se met tout à fait à notre portée. Peut-être qu'il se met à la portée des jeunes théologiens du Moyen-Âge. Mais si je commençais à ici les Moulineaux à lire la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, et je crois que les séminaristes diraient, vous n'êtes pas du tout à notre portée. Il faudrait regarder le dernier film et essayer de comprendre dans le dernier film de la télévision, voir qu'est-ce qu'il y a de la béatitude. Regardez la télévision toute la journée. Hein. Ça m'arrive pas, moi. Mais regardez la télévision toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a de béatitude là-dedans? Rien, rien, rien. Sauf quand il y a une émission exceptionnelle des jeunes moines. Alors, à ce moment-là, il y a quelque chose de la béatitude qui apparaît. On voit des visages qui sont jeunes, qui sont beaux, qui sont des reflets de l'aurore de la béatitude. Alors, il doit y avoir quand même quelque chose derrière. Mais c'est exceptionnel. c'est qu'ils se sont aperçus qu'au fond, c'est des sangs qui avaient le plus grand succès. Peut-être parce que c'est rare. Je me souviens que la première fois que le Saint-Père m'a dit « Est-ce que vous allez prendre votre petit déjeuner avec moi ou avec vos frères ?» Alors, je lui ai répondu « Comme c'est très rare, c'est très cher. » Il arrive, parce que c'est le fameux exemple, et tout ce qui est rare est cher. Alors, Thomas d'Aquin, nous verrons demain. Est-ce que vous aurez votre intelligence un peu plus éclaircie demain matin ? Soleil levé, j'espère qu'il fera beau. Thomas d'Aquin ne regarde pas la béatitude en parlant de Jésus. Tout son traité ne parle pas de Jésus. Il parle du Christ dans la troisième partie. Pourquoi ? Parce qu'il fait une théologie scientifique. On verra demain ce que ça représente. Si, au contraire, je prends une théologie mystique par la finalité et la cause exemplaire. Le Christ fait partie de ma béatitude. Comment fait-il partie de ma béatitude ? Il fait partie de ma béatitude, j'en suis sûr. Autrement, je ne serais pas chrétien. Il fait partie de ma béatitude puisque il est celui vers qui je tends de toutes mes forces, celui avec qui je suis uni. Et il est celui qui montre l'homme dans sa perfection. C'est quand même très étonnant, ça. Et donc, il est pour moi l'exemple. Si je veux comprendre ce que la béatitude chrétienne, je dis bien la béatitude chrétienne, pas seulement surnaturelle, mais chrétienne, et c'est ça qui m'intéresse, parce que je crois qu'en majorité vous êtes chrétiens, il pourrait y avoir d'autres, il pourrait y avoir des musulmans, il n'y en a pas encore beaucoup qui viennent, des musulmans, ému par le passage du pape à Tunis, qui serait venu jusqu'ici. Alors, pour eux, c'est la béatitude surnaturelle, la béatitude gratuite. Pour nous, notre béatitude est chrétienne. Alors, qu'est-ce que ça ajoute de plus ? Ça ajoute que nous tendons vers la béatitude par Jésus. Et c'est ça le propre de la théologie mystique, c'est de tout voir à travers Jésus et de tout reprendre à travers Jésus. Parce que ce qu'il y a de plus concret pour nous au plan surnaturel, c'est Jésus. Il est venu être notre sauveur. Il est venu être celui qui nous indique la voie, la vérité et la vie. Tout l'Ancien Testament est ordonné à Jésus. Et toute l'Église est ordonnée à Jésus. Donc il est le sommet, il est l'axe. Je ne comprends rien à l'Ancien Testament si je ne vois pas que c'est ordonné à Jésus. Je ne comprends rien à l'Église si je ne comprends pas que l'Église continue la mission du Christ. C'est notre pape qui l'a dit dans sa première encyclique. Il faut toujours être très attentif aux premières encycliques des papes. Puisque après ils sont papes. Tandis que la première encyclique, ils disent ce qu'ils ont pensé avant. Et dans sa première encyclique, le pape dit avec beaucoup de force que le mystère de l'Église, c'est le mystère du Christ qui se continue pour nous. Et c'est vraiment le mystère du Christ qui se continue pour nous. Et donc, l'Église est toute relative au Christ. Ce qui, dans l'Église, n'est pas relatif au Christ, ne fait pas partie du mystère de l'Église. les hommes d'église qui ne font pas partie de l'église. Vous voyez ? Parce qu'ils sont distraits. Alors, les distractions ne font pas partie du mystère de l'église. Mais l'église comme telle est toute relative à Jésus. Donc, si tout l'Ancien Testament est ordonné à Jésus, et si l'église, elle, est toute en référence à Jésus, c'est donc, si je veux comprendre ce qu'est la béatitude, il faut que je regarde Jésus. Alors, il y a certains points très nets du mystère de Jésus. Vous savez ce que dit Jésus à Nicodème dans son, quand il voit Nicodème, quand il voit cette leçon de théologie du Christ que j'aime beaucoup, parce que c'est intéressant de voir Jésus qui s'adapte à un docteur de la loi. C'est un personnage, Nicodème. C'est un personnage. C'est pas n'importe qui. C'est un grand docteur de la loi. Un grand théologien. Il fait partie du Sanhédrin. Et Jésus dit à Nicodème, nous parlons de ce que nous avons vu et nous témoignons de ce que nous connaissons. Jésus montre que quand il parle du Père, il ne fait qu'un avec le Père, il le voit. Quelle est la béatitude de Jésus? C'est de voir le Père. Ça, c'est net. C'est de voir le Père. C'est d'être attiré par le Père. Et je dis bien attiré par le Père. Dans une attraction qui est unique. Cette attraction d'amour qui est lumineuse et qui saisit d'une manière tout à fait profonde le Christ. Alors, on distinguera tout de suite dans le Christ la béatitude du Verbe de Dieu. Dieu est bienheureux. La béatitude pour un chrétien, c'est de voir le Père. Alors, comprenons que le Verbe de Dieu éternellement, il est bienheureux. Il vient du Père et il est tout entier tourné vers le Père. Ce qui est dit dans le prologue de Saint Jean. Il vient de Dieu et il est in sinu patris. C'est peut-être encore plus fort. Il est dans le sein du Père. Et donc, il est dans ce qu'il y a de plus secret dans le Père. Il est tout entier tourné vers le Père. Et il est un avec le Père. Il vient de lui. Il est vers lui. Pros. Ton Theon. Il est tourné vers Dieu. Et Dieu, c'est le Père. Et ne fait qu'un avec lui. Et donc, il y a dans le Christ cette béatitude du Verbe. Puisque la nature humaine dans le Christ est assumée par le Verbe. Et le Verbe vit dans cette béatitude. Par le mystère du Christ, la béatitude de Dieu m'est donnée. C'est quelque chose d'extraordinaire. La béatitude de Dieu est toute proche de moi. C'est pas lointain. En dehors du Christ, la béatitude, c'est toujours quelque chose de lointain. Avec Jésus, cette béatitude est toute proche. Puisque Jésus, c'est la nature humaine. Assumé par le Verbe. ça que Jésus n'hésite pas de dire, Philippe, qui me voit le Père. Pour montrer son unité. Or le Père vit dans la béatitude. Le Christ vit donc dans la béatitude en tant qu'il est le Verbe de Dieu. On oublie beaucoup trop ça. On oublie beaucoup trop que la chose la plus merveilleuse de l'incarnation, c'est que la béatitude du Père nous est donnée. Elle est pour nous. Elle n'est plus lointaine. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit immédiatement de la béatitude. Autrement, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes encore un païen. Cette béatitude du Père, elle m'est donnée. Et la béatitude du Père, Jésus l'exprime de cette manière. Que le Fils glorifie le Père. Alors c'est curieux. Quelle différence y a-t-il entre la gloire de Dieu et sa béatitude? Pouvez-vous le poser la question? C'est important. Dieu est amour. Dieu est bienheureux. Dieu est saint. Dieu est glorieux. Et la gloire du Père fait partie de sa béatitude. Et la gloire du Père, c'est la victoire de son amour. Je crois que c'est cela. J'ai beaucoup cherché. Et je suis arrivé à cette chose très simple, de dire que la gloire de Dieu, la gloire essentielle de Dieu, pour parler un langage précis, la gloire essentielle et personnelle de Dieu, c'est la victoire de son amour. Est-ce que c'est pas ça la béatitude? Ah tiens, est-ce que c'est pas ça qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que la béatitude? Oui, la petite expérience de la béatitude que nous avons, de temps en temps quand même on est heureux. Il y a des jours on est heureux. Alors les jours qu'on est heureux, c'est quoi? C'est la victoire de l'amour en nous. On est triste quand notre amour s'éteint. L'autre jour, je voyais au réfectoire, il y a toujours une bougie en face de la Vierge Marie, comme je suis juste en face. J'ai toujours des distractions à regarder la lumière de cette bougie. Je ne sais pas ce qu'elle avait ce jour-là. C'était très curieux. Elle paraissait éteinte. Je ne sais pas ce qu'on avait mis dedans. On avait dû lui injecter quelque chose. Elle paraissait éteinte. Puis il y avait de temps en temps des petites poussées lumineuses. Et puis il suffisait d'incliner pour que immédiatement la flamme reparte. Alors, ça me faisait penser exactement à notre situation. Quand les anges nous regardent, et de temps en temps, il dit, mais ils dorment, au point de vue de la charité, ils sont éteints. Il y a des petites poussées lumineuses. Puis le Saint-Esprit nous penche un tout petit peu sur le cœur de Jésus. C'est extraordinaire. Et c'est ça la béatitude, c'est la victoire de l'amour. C'est la victoire de l'amour. Et c'est la gloire. Je crois qu'on ne peut pas, on ne peut être glorieux que dans la béatitude. Gloire et béatitude, ça se tient. Oui, ça a été, j'allais dire, là. Ça a été la recherche constante du cardinal Urs Balthasar. Comme j'ai vécu longtemps en Suisse, comprenez qu'Urs Balthasar était quand même un ami. Et puis j'ai lu quelques livres de Urs Balthasar. Et la gloire et la béatitude, ça se tenait. Et c'est vrai, et c'est très vrai, que le chrétien est un victorieux. On n'a pas toujours la tête d'un victorieux. beaucoup de chrétiens sont des hommes tristes. De temps en temps, ils sont victorieux. Dans le Fils de Pâques, il y a le feu nouveau. Là, vas-y, ce feu nouveau, c'est en bois. On ne le voit pas beaucoup. Il est éteint, le feu, le matin. Quand vous regardez le feu nouveau, il n'y a plus que de la cendre. C'est l'état habituel du chrétien. Il est gris, il est... C'est la cendre. Tandis qu'au contraire, la flamme nouvelle, la flamme victorieuse du bois, victorieuse de la terre, victorieuse de tout, feu nouveau. Dans le Christ, il est le feu nouveau. Et c'est vrai, Pâques nous dit ça, la résurrection. C'est cette gloire éternelle du Verbe qui s'empare de son âme. Pour Thomas d'Aquin et pour tous les pères de l'Église et pour tous les théologiens, il n'y a que les théologiens de notre siècle. J'attends qu'ils soient canonisés pour adhérer pleinement à ce qu'ils disent. Les théologiens de notre siècle trouvent que Jésus, dans la fine pointe de son âme, n'avait pas la vision béatifique et qu'il était dans la foi. Ce sont des chrétiens tristes, ça. Ils n'ont plus la bannière. Ils ne portent pas la bannière, le drapeau. Le Christ qui est la tête du corps mystique. Dans son âme humaine, pour Thomas d'Aquin et pour tous les théologiens, même Bellarmine. J'ai fait l'enquête, ça m'a intéressé. J'ai vu que c'était un des propos propres de notre siècle. Des caractéristiques de notre siècle. Parce qu'on n'est peut-être pas, au point de vue chrétien, un siècle de lumière. Autrement, tous les autres affirmaient que Jésus, que l'âme humaine du Christ, étant unie d'une manière personnelle au Verbe de Dieu, nécessairement sa grâce personnelle était parfaite, était plénière de sa plénitude. Nous avons tous reçu. Il y a donc une plénitude de grâce en le Christ. Et quand la grâce connaît la plénitude, elle est dans la vision béatifique. Et donc l'âme de Jésus, dans ses sommets, avait la vision béatifique, avait le feu nouveau, avait cette victoire de l'amour dans son âme humaine. Aujourd'hui, beaucoup disent que c'est impossible. Jésus est fidèle, donc il a... Témoin fidèle, donc, témoin de la foi. On oublie que la fidélité relève de l'amour et pas de la foi. C'est l'amour qui est fidèle. Quand on aime, on est fidèle. La foi ne suffit pas à la fidélité. Il ne faut jamais oublier ça. La foi ne suffit pas à la victoire de l'amour. C'est l'amour pleinement dans son exercice et dans la vision béatifique qui est victorieux de tout. Au plus intime de l'âme de Jésus, il y a cette béatitude. Dans son âme humaine, il y a la béatitude du Verbe, il y a la béatitude de Jésus en tant qu'il est le Verbe qui assume la nature humaine et qui fait que dans l'âme humaine de Jésus, il y a cette flamme brûlante d'amour. C'est étonnant, ça. Et donc, Jésus... moment de sa conception. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça, je ne sais pas. Mais depuis le commencement de sa conception, son âme est dans la vision béatifique. Il est bien heureux. Il est dans la gloire. Il est dans la victoire de l'amour. Jésus est l'homme le plus victorieux de tous les hommes. Victoire de l'amour. C'est l'homme qui a aimé le plus. Et qui a aimé avec cette victoire prodigieuse de l'amour divin en lui. C'est pour ça qu'en lui, il y a cet élan merveilleux. Il n'y a aucun arrêt dans cet élan d'amour. Parce que c'est la grande victoire de l'amour au plus intime de son cœur, au plus intime de son âme. Il y a cette victoire de l'amour. Et c'est ça, sa béatitude. C'est beau, vous voyez, de voir que notre tête, celui que nous considérons comme notre source de vie, de lumière et d'amour, est quelqu'un qui, au plus intime de son être, connaît cette victoire de l'amour, cette béatitude, cette gloire. Jésus, si dans les sommets de son âme humaine, et dans la vision béatifique, et donc dans la gloire, et donc dans la béatitude, il est un homme bien heureux. Jésus a toujours été un homme bien heureux. Jésus est bien heureux dans la soif qu'il a d'aimer. En tant qu'il est le viator, le pèlerin, en tant qu'il est celui qui est l'agneau de Dieu, qui porte l'iniquité du monde. Jésus est bien heureux dans son âme humaine qui a accepté de porter l'iniquité du monde. Jésus est bien heureux dans son âme humaine par la grâce et par la plénitude de grâce qu'il a, parce qu'il peut donner sa vie pour nous sauver dans la charité fraternelle. Voyez, si je suis attentif, je dois regarder ces quatre modalités de béatitude en le Christ. Et c'est beau cela, et c'est grand. Ces quatre modalités de béatitude. Philippe qui me voit, voit le Père. C'est très étonnant ça. Et cette béatitude, elle m'est donnée alors que elle n'est pas donnée explicitement avant son incarnation, avant le mystère de la croix. Et le mystère de la résurrection du Christ, puisque nous sommes dans le temps de la résurrection, c'est le mystère où la béatitude du Père m'est donnée par le Fils. Le Père me donne son Fils glorieux. Il me le donne. Et en me donnant son Fils glorieux, puisque son Fils, c'est son Fils bien-aimé, c'est son Verbe, il me donne sa béatitude divine, éternelle. Et c'est très vrai que la béatitude ne peut être béatite que si elle est éternelle. C'est une des conditions de la béatitude. Une béatitude qui n'est pas éternelle n'est pas une béatitude. On est heureux un moment. La petite béatitude, n'est-ce pas, de l'homme qui est heureux de dépasser un peu les événements habituels et de se mettre dans un climat de joie, un climat bienheureux, parce qu'il retrouve des amis, parce qu'il mange avec eux, parce qu'il boit du champagne avec eux. Petite béatitude, ça ne dure pas aussi, parce que la mousse du champagne dégringole, ça ne dure pas. Donc c'est pas une vraie béatitude. La béatitude demande de durer éternellement. Il n'y a de béatitude que dans la victoire éternelle de l'amour. C'est Dieu qui est bien heureux. C'est le Père qui donne sa béatitude à son Fils et qui nous donne son Fils. Et qui nous le donne de la manière la plus forte qui soit, par Marie, comme le tout petit enfant de la Vierge Marie. Et il est notre petit enfant par Marie. Nous avons même mère. C'est étonnant. Cette béatitude éternelle du Verbe qui nous est donnée à travers le mystère de l'incarnation. Nous avons, ou plus exactement, Jésus. Non seulement est bienheureux comme Verbe de Dieu, mais il est bienheureux dans son âme humaine. La communication Et cette béatitude est incarnée d'une manière ultime dans le fait que Jésus nous délivre du péché, satisfait pour nous, et nous fait entrer dans une unité avec Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. C'est une béatitude de la charité fraternelle. C'est pour ça que je dis bien qu'il y a quatre modalités de béatitude en Jésus. Évidemment, les deux premières sont parfaites. Les deux autres sont in via, sont tendues vers, elles sont orientées vers, mais elles sont déjà des béatitudes. Jésus offrant sa vie pour nous à la croix est bien heureux. Parce qu'il accomplit pleinement la volonté du Père et qu'il connaît à ce moment-là une joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai. Il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Et Jésus à ce moment-là donne tout et ne garde rien pour lui. À l'intérieur de la charité fraternelle, dans la charité fraternelle. Et il y a cette béatitude dans son adoration vis-à-vis du Père et dans ce désir d'accomplir pleinement sa volonté et d'avoir comme unique désir accomplir la volonté du Père. Nous de comprendre que la béatitude elle existe déjà dès cette terre. Il suffit de regarder Jésus, parce que très facilement on dira la béatitude c'est pour le ciel. Oui, la béatitude parfaite, achevée, accomplie, c'est la vision béatifique, c'est sûr, mais nous tendons vers la vision béatifique. Nous sommes tout entier tendus vers la vision béatifique. Et parce que nous sommes tout entier tendus vers la vision béatifique, cette béatitude de la vision béatifique est déjà présente dans notre vie de foi, d'espérance et de charité. Connaissez la définition de la foi dans l'Épître aux Hébreux. Tout en venir à cela, la foi est la substance des choses qu'on espère. Si la foi est la substance des choses qu'on espère, j'espère la béatitude du ciel. C'est déjà la substance. La substance est le noyau central, principal. Et donc, dans la foi, je suis déjà bien heureux si je suis chrétien. Alors, psychologiquement, ça ne se voit pas toujours. Il y a des jours où on pleure. Mais c'est pas la grâce. C'est vous, ça. Vous vous regardez un petit peu de trop. Alors vous tâtez le pouls et puis vous dites « Je suis triste aujourd'hui. » Tandis que si vous ne regardiez pas, si vous étiez lié à Jésus, vous seriez toujours dans la béatitude, la substance. est l'argument de tout ce qui nous sera donné. L'argumentum. L'argument. Donc c'est une substance qui sait se défendre et qui est victorieuse de toutes les luttes. La foi nous donne la victoire du Christ. Et la victoire du Christ sur la croix. Et la victoire du Christ qui rayonne dans la résurrection. Elle nous est donnée dans la foi. Le chrétien, c'est un homme victorieux dans l'amour. Et donc bienheureux dans l'amour. Et qui vit déjà cette victoire de l'amour. C'est le mystère de Jésus. Or, la référence unique du chrétien, le mot l'indique, c'est à Antioche qu'on les a appelés chrétiens. Les premiers chrétiens. On ne savait pas comment les appeler. Ils sont des disciples de celui qui a été le Christ. Ils sont des disciples de celui qui se disait le Messie. Sont des disciples de celui qui se disait fils de Dieu. Alors on les appelle chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont tout entiers en référence avec Jésus. C'est ça le chrétien. Il est revêtu du Christ. Il est tout relatif à Jésus. Parce qu'il est tout relatif à Jésus, tout ce que Jésus a vécu, c'est à lui. Il est relatif divinement à Jésus. C'est pour ça, vous voyez, que si on veut comprendre ce qu'est la béatitude au plan chrétien, je dois regarder Jésus bienheureux. À la fois, en regardant Jésus bienheureux, je comprends, et nous aurons l'occasion d'y revenir, ce qu'est cette béatitude. Un mystère divin. C'est pour ça que j'aspire, j'essaie de préciser ce que c'est l'effort du théologien. Et ça a été un effort très particulier de Thomas d'Aquin. C'est un des points où il n'était pas d'accord avec le pape en tant que théologien. C'est quand même intéressant. Alors que Thomas d'Aquin n'a pas toujours été d'accord avec le pape en tant que théologien, il s'est soumis au pape. Mais le pape pouvait être un théologien moins fort que Thomas d'Aquin. C'est sûr. Mais quand il parlait comme pape, il était infaillible, Thomas d'Aquin n'était pas. Curieuse cette situation, hein. Mais ça montre bien la situation du théologien qui peut être un saint. Et la situation de celui qui a cette charge étonnante, mais lourde à porter, d'être pape. Et c'est par rapport à la vision béatifique. C'est par rapport à la vision béatifique. Et donc c'est quand même important, la vision béatifique, c'est le terme. C'est ce qui donne la signification à tout le reste. Si vous voulez comprendre un tout petit peu ce que c'est que le mystère de l'oraison, vous devez regarder la vision béatifique. C'est pas du tout quelque chose d'abstrait hein, de regarder les vies. C'est regarder ce qu'il y a d'essentiel dans votre vie chrétienne. Votre vie chrétienne en tant que chrétienne est une vie bienheureuse. En tant que chrétienne. Pas en tant qu'homme, le vieil homme. Hein. Il est malheureux. C'est normal qu'ils soient malheureux. Plus il est vieux, plus il est malheureux. Parce qu'il doit porter toutes les misères. Mais en tant que chrétien, il est victorieux. Il est bienheureux. C'est étonnant, ça. C'est très fort hein, d'essayer de comprendre ça. Regarder la béatitude, ce n'est pas regarder quelque chose de lointain. C'est de regarder quelque chose d'actuel pour moi. Si vous regardez quelque chose de lointain, c'est votre pauvre psychologie qui s'introduit dans votre théologie et vous n'êtes plus théologien. Vous savez ce que dit Karl Rahner, hein, quand même, qui est quelqu'un de grand, Karl Rahner. Vous voyez, je t'ai cité le ours, Balthazar. Je dis ça parce que quand je suis arrivé à Fribourg, je vais vous dire ça maintenant, hein, pour se reposer. Quand je suis arrivé à Fribourg, en 1945, avec le père de Ménas, qui était là à Fribourg, et si j'étais à Fribourg, c'était à cause de lui, parce qu'il se morfondait. Il était triste, il avait besoin d'un ami. Alors qu'on s'aimait beaucoup, parce qu'on avait fait notre vie ensemble, on s'aimait beaucoup. Alors il a tout fait pour que je vienne. Et à cette époque-là, on pouvait encore, parce que c'était une époque bien heureuse, on pouvait encore appeler les petits copains. Aujourd'hui, ça n'existe plus au point de vue universitaire. Mais à cette époque-là, on pouvait le faire. Alors, le soir, je suis arrivé, conférence, qui n'était pas encore cardinal, hein, conférence de Urs von Balthasar. Et le père de Ménas me dit, il faut venir, venez, comme ça vous ferez connaissance avec lui. Alors on est arrivé un peu, juste à la limite, la salle était pleine. C'était pas une très grosse salle, du reste. Alors on s'est fourré dans le haut, du reste on voyait très bien, comme ça. Alors regardez, Urs Balthasar, je me souviens encore de Urs Balthasar. Alors, à un moment donné, il a eu une envolée lyrique. Il avait de temps en temps ça, il aimait bien ça. C'était d'autant plus lyrique qu'il était, sa langue maternelle était l'allemand, mais il parlait parfaitement le français, mais quand même, c'était pas sa langue maternelle. C'était sa langue de théologien. Puisque là, il faisait une conférence de théologie. Alors, tout d'un coup, il a dit, les peines de l'enfer sont-elles éternelles? La miséricorde de Dieu est infinie. Qu'est-ce que ça représente, les peines de l'enfer, à côté de la miséricorde de Dieu? Vous savez, c'était un de ces thèmes qui revenait de temps en temps, soit. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est revenu. Est-ce que vraiment le démon doit rester éternellement dans l'abîme de souffre? Est-ce que c'est pas contre la miséricorde infinie de Dieu? Alors c'est sorti avec force. Il y avait Journet, futur cardinal. C'est la rencontre des deux cardinaux, vous voyez, dans le futur. Il y avait Journet qui était premier rang, vous voyez, d'en haut. Je ne connaissais pas, mais le père de Ménas m'a dit qu'il regardait les deux. C'était intéressant de voir le visage des deux. Il y avait Journet en bas qui écoutait. Alors quand c'est parti, il fallait connaître ce que c'était que Journet. Journet était un petit bonhomme maigri, maigrichon. Dès que c'est terminé, il file à toute vitesse, comme une souris, à toute vitesse. Et on le rattrapait en disant, et Balthasar, donc nous sommes descendus à toute vitesse aussi pour être là, tout près, et saluer à la fois Journet et Balthasar. Alors j'ai entendu, c'est la première chose que j'ai entendue à Fribourg, ce dialogue entre Journet et Balthasar. Balthasar rattrapant Journet, disant, vous me mettez en enfer. Parce qu'il savait très bien qu'en disant ça, il touchait un des points très vulnérables de Journet. Vous me mettez en enfer. Alors Journet, avec petite voix, dit, non, je vous aime encore. C'était le soupir de Journet, je vous aime encore. À ce moment-là qu'on est arrivé. Et après, on a entendu ce petit dialogue entre deux futurs cardinaux. C'était pas mal. Parce que c'est vrai, il y avait deux positions très très différentes entre Journet et Balthasar. c'était intéressant justement de voir l'aspect poétique de Balthazar, l'aspect très mystique de Journet, mais très scolastique en même temps, disciple de Maritain, et très très à la suite de Maritain. Il avait été, quand on parlait avec Journet, on pouvait parler toute une journée avec lui, parce que c'était merveilleux. Et au fond, on rencontrait deux positions, l'une classique, très classique, Journet. Puis, ours Balthazar, pris par la gloire, pris par la miséricorde et la victoire de l'amour. Alors, est-ce que la gloire de Dieu ne l'emporte pas sur tout ? Est-ce que la justice doit exister jusqu'au bout ? La miséricorde et la justice se sont embrassées à la croix. Alors comment comprendre cette miséricorde et cette justice ? Alors voyez, ce que je voulais ce soir, c'est vous rappeler, parce que c'est quand même très important dans une session théologique, de vous rappeler que le chrétien dans le Christ est un homme, une personne qui vit dans la béatitude, une béatitude promise, une béatitude espérée, mais une béatitude présente, la substance des choses qu'on espère. Cette béatitude, et cette béatitude est tout entière tournée vers celle de Jésus, ou tout entière dépendante de celle de Jésus. Et Jésus a vécu, lui, comme un bienheureux dans cette béatitude divine du Verbe, et dans la lumière et dans le rayonnement de cette béatitude.